France Inter. Bonsoir, dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Dora Amar, Picasso et la naissance de Guernica. Dora Amar fut longtemps reléguée au rang de muse et surnommée la femme qui pleure en référence au portrait que Picasso a peint d'elle. Il a fallu du temps pour redécouvrir cette artiste qui a traversé le XXe siècle. Dès les années 1930, cette jeune photographe au style singulier s'est imposée dans le mouvement surréaliste, devenue célèbre pour ses photomontages très élaborés, images souvent macabres où se mêlent étrangeté, érotisme et humour. Un jour de 1936, dans un café de Saint-Germain-des-Prés à Paris, cette belle femme brune, élégante, originale, au regard direct et intense, décide de séduire l'homme attablé près d'elle. L'homme, c'est Pablo Picasso, il a 54 ans, elle en a 28. Pendant 7 ans, ils vont partager une passion à la fois amoureuse et artistique, vivant l'expérience fusionnelle de la création du tableau Guernica. Mais Dora Amar ne résistera pas longtemps à la toute-puissance destructrice du Minotaure, grand dévoreur de femmes et qui ne saurait partager le titre d'artiste. Pourtant, Dora Amar disait aussi d'elle-même « Mon destin est magnifique, quoi qu'il en semble ».
France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire.
Damaris Amao, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne de la photographie, attachée de conservation au cabinet de la photographie du Centre Pompidou et commissaire d'exposition. Vous connaissez bien Dora Amar, puisque justement vous avez été une des trois commissaires de l'exposition Dora Amar, la grande rétrospective qui a eu lieu en 2019 au Centre Pompidou. Est-ce qu'on peut dire que Dora Amar a été très connue et reconnue dans sa jeunesse, donc dans l'entre-deux-guerres, et puis ensuite un peu négligée, pour ne pas dire oubliée, après la Seconde Guerre mondiale?
Oui, c'est vrai qu'il y a deux temps un peu dans la reconnaissance de Dora Amar. C'est vrai que dans l'entre-deux-guerres, c'est une jeune femme qui embrasse le métier de photographe, comme de nombreuses autres jeunes femmes à la même époque. Et elle connaît un certain succès. Elle publie dans de nombreux magazines, elle expose. C'est vraiment une personnalité en vue dans le milieu de la photographie. Et il faut dire qu'elle cesse la photographie à partir de la fin des années 30, progressivement dans la Seconde Guerre mondiale. Elle va se consacrer un petit peu plus à la peinture et aussi à l'écriture, à la poésie. Et elle va rentrer dans une certaine discrétion, on va dire. Elle va exposer encore un peu. Elle ne va pas vouloir montrer ses photographies alors que certain nombre de personnes reviennent vers elle dans les années 60-70. Et ce qui fait qu'il y a un petit aura de mystère qui va demeurer autour d'elle, même si elle suscite, et on le voit, hein, que ce soit avec l'exposition, avec l'intérêt que les gens ont pour son travail, elle se ressuscite un très grand intérêt aujourd'hui.
Tant mieux. Alors, l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes commence en 1936. Dora Amar a 28 ans, de son vrai nom Théodora Markovitch. Elle est née en 1907 en France, d'une mère française et d'un père yougoslave. Enfant, elle est partie avec sa famille vivre plusieurs années en Argentine, où elle apprendra à parler espagnol. Et en 1926, la famille rentre en France et c'est là que la jeune fille décide d'entreprendre des études d'art. Quelle est sa formation?
Alors elle commence au Comité des Dames. Le Comité des Dames, c'est plutôt un cursus dédié aux jeunes filles, à l'Union des Arts Décoratifs. Charlotte Perriand est passée par la même époque, Jacqueline Lamba également. Et donc elle va d'abord avoir une formation d'art appliqué avant de se consacrer ou de se former à la photographie à l'école de Vaugirard. C'est un peu l'ancêtre de Louis Lumière et qui formait les opérateurs en photographie et en cinéma.
Donc déjà, c'est une femme avec un caractère bien trempé, un style très personnel. Elle part faire des reportages seule à Barcelone, à Londres, dans les quartiers pauvres, ouvriers. Elle développe une conscience politique aussi. Et en 1930, elle ouvre son propre atelier. Elle dirige un studio photo où elle fait poser des mannequins et des figures du tout Paris. C'est une figure déjà du mouvement surréaliste au tout début des années 30.
Alors on le voit un peu dans les tableaux, les portraits que ses amis ont fait d'elle. c'est vraiment l'incarnation de la Parisienne, hein, oui. Avec sa coupe à la garçonne.
Une très belle femme.
Très belle femme, avec voilà.
Avec du caractère,
ce style. La plupart des commentateurs se rappellent de ses ongles peints, de son regard mystérieux. Et puis cette indépendance qu'apporte la photographie à cette époque-là. D'autres figures féminines adoptent la photographie parce que ça permet d'avoir une émancipation sociale, artistique. Et donc, en effet, en 1930, elle s'associe à Pierre Keffer, qui est plutôt un décorateur de cinéma, pour ouvrir le studio Keffer d'Oramar.
Et qu'est-ce qu'on peut dire déjà de son style? En quoi est-il surréaliste? Qu'est-ce qui la caractérise?
Alors déjà, ce qui est très intéressant dans le travail de d'Oramar, c'est cette maîtrise très professionnelle de la composition, de la mise en scène, et de la dimension surréaliste, c'est ce rapport qu'elle a aux objets, d'introduire, que ce soit même dans ses portraits commerciaux ou dans ses photographies de commande, d'introduire une certaine dose d'étrangeté avec des objets, des mises en scène, et ce style surréaliste, il va culminer avec la réalisation des photomontages qu'elle réalise à partir de 32 jusqu'à la fin des années 30, où elle combine vraiment l'univers onirique du surréalisme avec des images récoltées, des images qu'elle prend, on l'a dit, à Barcelone ou en Angleterre, mais qu'elle va recombiner pour faire des véritables images de rêve.
Oui, ça fait vraiment du... On est dans le rêve, dans l'onirisme. Oui. Et en 1936, donc, quand elle va rencontrer Picasso, c'est déjà... d'Oramar est déjà une artiste accomplie et très connue.
Oui, c'est une artiste accomplie. Elle a rejoint les surréalistes. Elle est proche de Paul Éluard, de Breton. Elle a signé des tracts politiques avec eux. Elle est... par exemple, il y a un film, le Crime de Monsieur Lange de Jean Renoir qui est réalisé. On l'appelle pour faire les photographies de plateau. Donc elle est véritablement une jeune femme en vue à cette époque-là.
Damaris Amao, on se retrouve dans une trentaine de minutes. Tout de suite, d'Oramar, Picasso et la naissance de Guernica. Un texte de Marjorie Philibert, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation Christophe Hoquet.
Chère Jacqueline, hier soir j'ai fait une rencontre qui, je le sens, va changer ma vie. Et tu en es en quelque sorte l'inspiratrice. Il y a 2 ans, dans le café où se trouvait André Breton, tu as si bien orchestré ton apparition qu'il est tombé éperdument amoureux de toi. Eh bien, dimanche, moi aussi, j'ai forcé le destin. Pour le meilleur ou pour le pire. Avec la complicité de notre cher Paul Éluard, je me suis installée à la terrasse des Deux Magots, à la table voisine de celle de Picasso. Je portais des longs gants noirs brodés avec des fleurs roses. J'ai attendu qu'il me regarde et je les ai retirés lentement. Puis j'ai sorti de ma poche le canif qui ne me quitte jamais depuis l'âge de 10 ans et j'ai commencé à le laisser tomber sur la table, entre mes doigts écartés. D'abord lentement, puis de plus en plus vite. J'avais le cœur qui battait. Je sentais le regard d'acier de Picasso posé sur moi, mais je continuais comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Le couteau n'a pas tardé à manquer son but. Une fois, 2 fois, 10 fois. Si bien qu'à la fin, j'avais les doigts tailladés et la table était recouverte de sang. Alors j'ai remis mes gants, très tranquillement, et je suis sortie. Picasso n'a pas tardé à me courir après dans la rue. Il m'a demandé si je voulais bien lui donner mes gants, et je lui ai répondu, en espagnol, que c'était avec grand plaisir. Il a été très troublé que je m'exprime dans sa langue, et est reparti, mes gants tachés de sang dans la main. Crois-moi, l'alliance du mystère et de la douleur, il n'y a rien de tel pour séduire un espagnol. Je te confie le secret de cette petite mise en scène, car tu sais comme moi que si les hommes s'en remettent au hasard en amour, les femmes ont rarement ce luxe. J'ai hâte de te raconter ce qui va suivre. Affectueusement, ta Dora.
Au début de l'année 1936, d'Oramar est une photographe reconnue. Proche des surréalistes, amie de Paul Éluard et maîtresse de Georges Bataille, elle est au cœur de l'effervescence artistique des années 1930. Fille d'un architecte croate originaire de Buenos Aires, elle fascine l'avant-garde parisienne par sa singularité, sa beauté et son talent.
dans les mois qui suivent, elle revoit Picasso, dont elle fait le portrait à plusieurs reprises. Mais les deux artistes ne partagent pas seulement des affinités amoureuses. Au début de l'été 1936, la guerre d'Espagne est au cœur de leurs préoccupations. Le 18 juillet 1936, le général Franco déclenche une insurrection militaire pour chasser les républicains du pouvoir. Si la France et l'Angleterre refusent d'intervenir dans le conflit, l'Allemagne d'Hitler et l'Italie de Mussolini apportent leur soutien à Franco. Le 4 août, Picasso et Dora Maar se retrouvent sur la Côte d'Azur au milieu d'une joyeuse bande d'amis, dont Paul Éluard et sa femme Nouche. Mais l'insouciance de ces vacances estivales ne parvient pas à chasser de leur esprit les nuages qui s'accumulent sur l'Europe.
15h. Il est temps d'aller se recoucher.
Moi, je vais aller travailler. Je ne sais pas faire la sieste.
Même si Nouche l'a fait avec toi ?
Je suis honoré de ta proposition, mon cher Paul. Mais Nouche n'est pas vraiment mon type.
T'as vu les derniers portraits que Dora a fait d'elle ? Elle n'a jamais été aussi belle.
Belle ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour mettre une femme dans mon lit, j'ai besoin de l'imaginer en peinture. Et je ne me vois pas peindre Nouche et son corps d'enfant. Regarde, Dora. Même en revenant des courses, son panier à la main, on dirait une déesse antique. Ses hanches sont pour moi un enchantement quotidien.
Regardez ce qu'on a trouvé au marché, 2 kilos de langoustine.
Tu ferais bien d'en manger au moins 1 kilo, Nouche, si tu veux que Picasso fasse un jour ton portrait.
Paul, l'inspiration, ça ne se commande pas. Il y a des gens qu'on a envie de peindre et d'autres non. Ça ne s'explique pas.
Tu vois, Paul, cette jeune demoiselle a tout compris. Quand je peins, je ne donne pas, je prends.
Un artiste est comme un vampire. Il se nourrit de son modèle. Dès qu'il est rassasié, il cherche une autre proie.
Par pitié, Dora, arrêtez avec cette comparaison ridicule. Je n'ai rien à voir avec un vampire. Je vous l'ai dit 100 fois, je suis un minotaure.
Oui, eh ben, nous allons faire la sieste, puis nous irons nous baigner. À tout à l'heure.
Ce cher Éluard est vexé parce que j'ai refusé le squelette qu'il voulait me donner en offrande. Je vais devoir me méfier de lui. Il n'y a rien de pire qu'un courtisan éconduit.
Que vous êtes cynique, même avec ceux qui vous aiment.
De qui parlez-vous ? Il n'y a que Casbec qui m'aime. Viens, viens, viens. Viens, c'est bien mon chien. Vous voyez ? Quand Casbec vient mettre sa tête sur mes genoux, ça c'est de l'amour. Parce qu'il se fiche complètement que je sois Picasso ou non. Exactement comme Marie-Thérèse.
Cette comparaison est odieuse.
Parce que vous ne la connaissez pas. Marie-Thérèse n'a jamais su qui j'étais. Et n'a jamais mis les pieds dans un musée de sa vie. Son amour pour moi est totalement désintéressé. Vous, Éluard et les autres, m'auriez-vous approché si je n'étais pas Picasso ?
Je ne peux pas séparer en vous l'homme et l'artiste, comme je ne peux pas le faire pour moi non plus.
Assez de fadaise. Vous êtes comme toutes les femmes. Vous cherchez quelqu'un pour vous éclairer, et après vous vous plaignez de vous être brûlée.
Je sais depuis le premier jour que je me brûlerai à votre contact, mais peu m'importe. Je voudrais simplement vous prouver que vous pouvez avoir confiance en moi. Ne pouvez-vous vivre autrement que dans ce climat de suspicion et d'intrigue ? Ce doit être épuisant.
Ma chère Dora, vous êtes encore loin d'imaginer la quantité d'intrigues et de drames dont j'ai besoin pour créer. Mais allons nous promener un peu, voulez-vous ? Marcher dans la nature, voilà la seule chose qui m'apaise. Très temporairement. Pas vous ?
Je suis incapable de me réjouir quand je sais que l'Espagne est à feu et à sang, et que la liberté est menacée.
Et moi donc ? J'ai été anarchiste dans ma jeunesse, à Barcelone. Nous détestions toute forme d'autorité. Voir ce singe de Franco jouer les dictateurs aux petits pieds me révulse. Mais que pouvons-nous faire ? Face au désastre de mon impuissance, la seule solution que j'ai trouvée est de continuer à peindre.
Justement, vous pourriez vous servir de votre peinture comme d'une arme ? Dénoncer le danger qui menace l'Europe ?
Mélanger l'art et la politique, voilà qui m'est totalement étranger, voyez-vous. La peinture est quelque chose qui s'impose à moi. Quand je me lève le matin, je suis accablé en lisant les journaux. Mais quand je suis dans mon atelier, j'ai envie de peindre Marie-Thérèse ou notre petite fille Maya, une enfant ravissante.
Et votre épouse, elle est au courant de leur existence ?
Je ne sais pas. Je ne discute pas de ces choses-là avec Olga. Nous n'arrivons même plus à prendre un petit déjeuner ensemble. C'est une Russe qui n'aime que le thé et les gâteaux, et moi je suis un Espagnol qui n'aime que les saucisses et le café. Qu'avez-vous ?
Je me sens pas très bien.
Allons, allons. Vous n'allez pas commencer à faire un malaise comme toutes les femmes. Ce qui me plaît chez vous, c'est votre constitution robuste, votre corps éclatant de santé. Vous êtes très inspirante pour un artiste, vous savez.
Quelle est ma place dans votre vie, au milieu de tout ça?
Elle est celle que vous parviendrez à prendre, c'est tout. Regardez-moi. Vos yeux sont vraiment extraordinaires. Sous le soleil, ils ont les reflets violets. Dora, vous avez la Miranda Fuerte, le regard fier des Espagnols de mon enfance. J'aimerais que vous vous coiffiez comme elle, avec un chignon haut.
Quand j'ai fait votre portrait, je vous ai photographié tel que vous étiez, sans artifice.
Parce que vous vous êtes contenté d'appuyer sur un bouton. Alors que nous, les peintres, nous recréons la nature telle que nous la voyons.
Non, c'est faux. Derrière l'objectif du photographe, il y a un regard. J'ai l'audace de croire que votre portrait est réussi, car j'ai perçu mieux que personne le feu qui brûle à l'intérieur de vous.
Eh bien, moi, je me fiche de savoir qui vous êtes, parce que je n'en ai pas besoin pour vous peindre. Si j'ai envie que vous soyez un chien, un oiseau, un nuage, alors c'est ce que vous serez. Voilà pourquoi la peinture sera toujours supérieure à la photographie.
La photographie donne à voir, comme la poésie?
Cette discussion devient assommante. Vous avez la chance d'avoir été choisie par Picasso. Cela devrait vous combler. Marie-Thérèse, au moins, ne se pose pas tant de questions.
Eh bien, retournez auprès d'elle, si elle vous manque tant.
Certainement pas. Je suis très heureux ici avec vous.
Vous allez me trouver orgueilleuse, mais je suis sûre que nous pourrions faire de grandes choses ensemble.
Pourquoi de grandes choses? En peinture, il faut toujours commencer petit. D'abord un croquis, puis le dessin prend forme petit à petit. Allez prendre votre maillot de bain à l'hôtel. J'ai envie de vous dessiner en train de sortir de l'eau, pour voir. Allez.
De retour à Paris, Picasso et Dora Maar entament une relation passionnelle. Mais la jeune femme comprend vite qu'elle ne sera jamais la seule dans l'existence de son amant. L'artiste entretient en effet des relations tourmentées avec sa femme, Olga Kolkova, qui refuse de divorcer, et d'autre part, sa deuxième famille, dont l'existence est cachée, composée de Marie-Thérèse Walter et de leur fille Maya. Dora Maar découvre que dans sa vie privée, Picasso se plaît à vivre dans la manipulation et le mensonge. Mais sa passion pour lui est plus forte. Elle devient la maîtresse officielle du peintre et s'installe chaque jour un peu plus dans la dépendance et la souffrance. Elle rêve d'une fusion totale avec lui et délaisse ses propres travaux pour se consacrer à ceux qu'ils réalisent ensemble, mélangeant la peinture et la photographie. Dans une lettre à Jacqueline Breton, sa confidente, elle laisse libre cours à ses sentiments.
Chère Jacqueline, pardonne-moi de ne pas t'avoir donné de nouvelles, mais ces derniers temps, j'ai l'impression d'avoir été transportée dans une réalité mille fois plus intense que la vraie. Picasso a le don de transfigurer la vie. Hier, il est venu à mon atelier et a fait mon portrait en étalant de la peinture à l'huile sur une plaque de verre. Puis il a dessiné dedans avec la pointe du canif jusqu'à ce que mon visage apparaisse. Ensuite, j'ai fait un tirage en posant du papier sur la plaque et j'ai appliqué dessus un fragment de dentelle dont le tracé forme comme une mantille autour de mes cheveux. Picasso m'a proposé de signer ce cliché Picamar. J'étais la femme la plus heureuse du monde lorsqu'en partant, il m'a dit « À lundi ». Chaque fin de semaine, il se rend à Tremblay, où il a installé sa maîtresse et sa fille dans une maison. À chaque fois, c'est comme si un rideau noir s'abattait sur moi. J'ai envie de tout déchirer, de briser la plaque en mille morceaux, de renoncer à lui, à l'art, à la vie. Naturellement, je ne lui montre rien. Il ne supporte pas ce qu'il appelle mes pleurnicheries. « Vous êtes une femme, c'est-à-dire une machine à souffrir en silence », m'a-t-il dit. Comme j'aimerais être un homme, n'aimer personne, ne dépendre de personne. Voilà ce qui permet de construire une œuvre. Malheureusement, tu me connais assez pour savoir qu'en ce qui me concerne, c'est impossible. T'adora.
Les tourments de sa vie amoureuse n'empêchent pas Dora Maar de poursuivre avec ardeur son engagement politique. L'internationalisation du conflit espagnol a transformé celui-ci en un combat de la liberté contre le fascisme et le monde entier a désormais les yeux rivés sur l'Espagne. Dora Maar, Paul Éluard et les surréalistes pressent Picasso de prendre position pour les républicains. Mais celui-ci est réticent. Il estime qu'un artiste n'a pas à s'engager en politique.
Pourtant, par attachement pour son pays, il accepte en janvier 1937 de réaliser une toile monumentale pour le pavillon espagnol à l'Exposition universelle de Paris, qui doit se tenir au mois de juin. Mais fidèle à lui-même, Picasso, qui déteste toute forme de contrainte, traîne des pieds. Pour l'encourager, Dora Maar se met en quête d'un nouvel atelier suffisamment grand pour accueillir l'immense toile. Le 4 février 1937, elle lui donne rendez-vous devant un élégant hôtel particulier au 7 rue des Grands Augustins à Paris.
J'espère que c'est chauffé correctement, moi. Je suis gelé.
Vous inquiétez pas, il y a un poêle immense.
Je vois que vous ne m'avez pas attendu pour entrer à l'intérieur.
Mais Pablo, je connais très bien cet endroit. Je vous l'ai dit au téléphone. C'est là que nous nous réunissions autour de Georges Bataille, du temps de son mouvement contre-attaque.
Ah, de mieux en mieux, si vous pensez que je vais marcher sur les traces de ce curé impuissant.
Qu'en savez-vous? Vous ne l'avez jamais lu?
Je les connais par cœur, ces intellectuels français. Bataille, Breton, tous ces gens sont des ratés qui passent leur temps dans des réunions à écrire des manifestes pour dénoncer des guerres dans des pays lointains où, bien entendu, ils ne mettent jamais les pieds. Moi, Picasso, mon ambition est beaucoup plus modeste. Je peins. Voilà tout.
Par ici. C'est au dernier étage.
Je ne suis pas sûr de vouloir y aller. Je n'aime pas l'idée que vous ayez fréquenté ce lieu avec vos anciens amants.
De la part de quelqu'un qui vit toujours avec sa femme, voilà une réflexion à laquelle je ne m'attendais pas. Allez, venez. Faites-moi confiance.
Il y a encore combien de marches comme ça?
Oh, faites pas le vieillard alors que vous êtes en pleine forme. Voilà. Nous sommes arrivés. Qu'en pensez-vous?
C'est intéressant.
C'est ici que Balzac a situé son roman, le chef-d'œuvre inconnu. C'est là que le peintre Fraunhofer sombre dans son obsession de représenter l'absolu en peinture.
Et accablé par son échec, il finit par détruire son tableau et se suicider. C'est un de mes livres préférés. Je me rappelle très bien de la description de l'atelier. La peinture qui s'effrite et la vue sur les toits de Paris.
Vous voyez?
Je reconnais que c'est un endroit admirable. Mais je ne suis pas sûr que la toile pourra tenir. Non. Il va manquer une dizaine de centimètres dans le sens de la longueur.
Eh bien, vous inclinerez le châssis, c'est tout.
Ma chère Dora, savez-vous que vous avez parfois des intuitions géniales? J'ai l'habitude de dire « Dora n'est pas une femme, c'est un homme ». Eh bien, c'est précisément en raison de ce genre de réflexion.
Tiens, qui est-ce?
C'est Cocteau. Je lui ai donné rendez-vous ici, car nous devons déjeuner ensemble. Ah.
Pablo, l'atmosphère de cet endroit est extraordinaire. Cet escalier sombre, vermoulu, cette hauteur sous plafond, terrifiant. Il règne ici un vide royal qui n'attend que d'être rempli par vos fantômes. Alors ce sera un désordre royal.
C'est Dora qui a trouvé cet endroit.
Ça ne m'étonne pas. Elle a très bien compris votre double nature. Vous êtes vous-même un monstre. Un homme et une femme passionnément enchevêtrés, comme dans votre peinture. Vous êtes à vous seul un ménage, n'est-ce pas? Le ménage Picasso. Dora est la concubine avec laquelle vous vous trompez vous-même. De ce ménage et de cet endroit naîtront des monstres merveilleux. Qu'en pensez-vous, ma chère Dora?
Je pense que si la flatterie était un des beaux-arts, vous seriez membre de l'Académie depuis longtemps.
Allons, Dora, vous m'apportez le drame, il faut bien que Cocteau m'apporte la légèreté. Non, cet atelier... C'est incroyable, vraiment. La seule chose qui me fait hésiter, c'est quitter la rue de la Boétie où je vis depuis 12 ans. Le moindre changement dans mes habitudes me terrifie.
Parfois, il faut détruire pour renaître à nouveau. Votre histoire avec Dora mérite un lieu unique où vous vous créerez des souvenirs.
Mais les autres lieux existeront toujours. Même si je quitte la rue de la Boétie, Olga existera toujours. Chaque fois que je quitte une femme, je devrais brûler la dernière. De cette façon, elle ne serait plus autour de moi à compliquer mon existence. On tue la femme et on tue le passé qu'elle représente.
Je ne crois pas que Dora soit le genre à se laisser tuer aussi facilement.
Détrompez-vous. Elle meurt déjà d'ennui à m'attendre.
Puisque c'est comme ça, je m'en vais.
Qu'est-ce qui vous prend ? Nous faisions une joie de déjeuner avec vous.
Je vous laisse entre vous. Vous pourrez parler de femme à votre guise.
Oh, vous savez, ce n'est pas le sujet qui me passionne le plus.
Voilà l'enfer que cette femme me fait vivre. Elle n'est qu'éclat de voix et orage.
J'imagine que ce n'est pas pour vous déplaire.
Effectivement. Sa musique à elle est différente. Ce n'est ni l'hystérie slave d'Olga, ni la tristesse muette déchirante de Marie-Thérèse. Dora, c'est l'Espagne, meurtrie. C'est la reine sanglante de la corrida. Elle a le regard halluciné du taureau qui vous défie d'approcher et en même temps vous supplie d'abréger ses souffrances. C'est passionnant, mais épuisant.
Venez. Je vais vous amener dans une brasserie et vous pourrez reprendre des forces. Et pour l'atelier, ne tardez pas. Il est fait pour vous.
Non. C'est moi qui le ferai. À ma manière.
Dora avait vu juste. Dans son nouvel atelier, Picasso retrouve l'inspiration. Il se met au travail et oublie momentanément les affres de sa vie privée. Dora Maar, elle, emménage juste à côté, aux 4 rues de Savoie. Mais l'accès de l'atelier lui est interdit. Personne, hors Picasso, n'a l'autorisation d'y entrer. Picasso s'attelle enfin à sa commande et fait quelques esquisses autour de son sujet de prédilection, l'atelier, le peintre et son modèle. Dora Maar est peu convaincue, estimant que le sujet ne répond pas à la gravité de la situation et de l'attente que l'Espagne place en Picasso. Mais le 1er mai 1937 au matin, un événement majeur va lui offrir le sujet de sa peinture. Picasso est en terrasse au Café de Flore avec Dora Maar lorsque Paul Éluard arrive hors d'haleine avec à la main le journal « Ce soir » que vient de lancer Louis Aragon.
Il pourrait m'apporter cette bouteille d'eau quand même.
À quoi bon, puisque vous la buvez jamais?
Je sais. J'ai besoin de la voir, au cas où.
Dora, Pablo, vous avez lu les journaux?
Non, que se passe-t-il?
Des avions allemands ont tiré à la mitrailleuse sur le village de Guernica, en Espagne. Les morts se comptent par centaines. Des femmes, des enfants, des vieillards. C'est un village entier qui a été rasé de la carte.
Donne. Il ne reste plus rien. Que des ruines. Los bastardos.
S'en prendre à des civils sans défense. Comment peut-on aller si loin dans la barbarie? Fidèles à nous-mêmes et d'abord à notre devoir, nous associons notre voix à celle qui se lève de par le monde contre les assassins de Guernica.
Ça, c'est la prose de ce cher Aragon. Il doit se sentir investi d'une mission supérieure.
Oh, il a raison. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester là comme ça, à regarder la population se faire massacrer.
Eh bien, allez-y, vous. Prenez votre appareil photo et partez dans le premier train. Ce sera moins confortable que la rue de Savoie, c'est sûr.
Oh, arrête, hein, Pablo. Je peux pas croire que ce drame ne te touche pas intimement.
Évidemment que je suis meurtri. Tu oublies que j'ai toute ma famille en Espagne. Ma mère, mes tantes, ma sœur.
Il faut que vous alliez les chercher.
Et pour les emmener où? À Paris? Leur vie est là-bas. Ils ne partiront jamais.
Pablo, ce que tu fais pour ta famille, ça ne regarde que toi. La manière dont tu réagis à des événements aussi graves, là aussi, ça ne regarde que toi. Mais je dois t'avertir d'une chose. C'est que c'est désormais ta réputation qui est en jeu. Des rumeurs courent à ton sujet. Les gens prétendent que tu soutiens le régime de Franco.
Mais parce qu'ils ne comprennent rien à Picasso. Moi qui ai toujours détesté toute forme d'autorité, j'aurais de la sympathie pour un dictateur de pacotille.
Dora et moi, nous te connaissons. Mais le public, lui, c'est pas ce que tu penses. Il faut que tu fasses une déclaration à la presse.
Déclaration à la presse? Mais vous êtes devenu fou, quoi. Non, je vais faire mieux que ça. Goya a peint les fusillés de la guerre d'indépendance. Et Picasso va peindre Guernica.
Pablo, c'est une idée magnifique. Vous êtes le seul artiste capable de restituer l'horreur de cette tragédie.
Ah, c'est très bien, mais ça suffit pas. Il faut faire paraître un communiqué. Je vais le rédiger.
Un communiqué? Tu imagines Goya écrivant un communiqué?
Laisse-moi faire. Je vais l'envoyer à Aragon ce soir, il paraîtra demain matin. Ah, j'ai pas mon carnet. Moi, tant pis. La nappe fera l'affaire. Toute ma vie d'artiste n'a été rien d'autre qu'une lutte continuelle contre la réaction et la mort de l'art. Comment quiconque pourrait-il croire un instant que je pourrais être en accord avec la réaction et la mort? dans le panneau sur lequel je travaille et que je vais appeler Guernica, comme dans toutes mes œuvres d'art. J'exprime clairement mon abhorration pour la caste militaire qui a plongé l'Espagne dans un océan de souffrance et de mort. Pablo Picasso.
Bravo, Paul. C'est très bien dit.
Peut-être, mais sais-tu la différence entre toi et moi? La nappe en papier sur laquelle tu viens d'écrire ces belles phrases finira tôt ou tard à la poubelle. Alors que moi, juste en faisant un croquis comme ça. Tiens, par exemple, le profil de Dora. Voilà. Eh bien, j'ai rendu notre serveur millionnaire.
Nous savons tous que tu es l'artiste le plus coté au monde. Pas besoin d'en rajouter.
C'est juste pour te faire comprendre que la peinture donne à voir. C'est pour ça qu'elle sera toujours plus forte que n'importe quel discours. Sauf la poésie. Laisse tomber la politique, Paul. Continue à écrire des poèmes, c'est ce que tu as de mieux à faire.
Entendu. Si tu te mets au travail.
Ébranlé par la tragédie qui a frappé son peuple, Picasso se met au travail dès le lendemain. Il se lance dans des croquis préparatoires qui reprennent les motifs obsessionnels de sa peinture, la femme, le cheval, le taureau. Pressentant le caractère exceptionnel de l'œuvre qu'il prépare, il demande à Dora Maar de documenter son travail à chacune de ses étapes. Jour après jour, elle le photographie en train de peindre, mêlant passion intime et professionnelle. Rompant avec ses habitudes, Picasso autorise les visiteurs à le regarder peindre. Pendant un mois, au 7 rue des Grands Augustins, le tout Paris artistique défile pour contempler un des plus grands chefs-d'œuvre du XXe siècle en train de se faire. Le 25 mai 1937, alors que le tableau est déjà bien avancé, Paul Éluard rend visite à ses amis.
C'est incroyable, je reconnais plus rien. Ce cheval, il n'était pas la semaine dernière. Et le soleil, il est où? Ah, il a été remplacé par une ampoule.
S'il regardait par ici, Non, ça ne va pas. Cette tête ne va pas, mais pourquoi? Qu'est-ce qui cloche?
Paul, écarte-toi.
Ah, pardon.
Je voudrais prendre Pablo maintenant, avec cette lumière. Ne me regardez surtout pas. Hein.
Je n'ai pas l'habitude d'être le modèle.
C'est une idée formidable que vous avez eue. Grâce au travail de Dora, on peut vraiment suivre l'évolution de la toile. C'est très moderne, cette manière de montrer au public le travail en train de se faire. Vous êtes en train de fabriquer une œuvre commune.
C'est ce que tu racontes. Il n'y a qu'un seul artiste dans cette pièce. Moi.
Attends. Tu n'es pas sérieux?
Laisse, Paul. J'ai l'habitude. Tournez-vous un peu plus sur la droite. Voilà.
Et finalement, tu as renoncé à la couleur?
Oui, je voulais mettre du rouge, mais quand j'ai vu les photos de Dora, je me suis dit que le noir et blanc convenait mieux à la toile. Cela lui donne un aspect plus austère. Presque documentaire.
Preuve qu'il n'y a qu'un seul artiste ici. Ah! Voilà Cocteau.
Ne dérangez pas pour moi, je suis un habitué. Je ne peux plus me passer de ce spectacle. À quoi bon aller au théâtre quand on peut assister à cela? J'ai délaissé mes propres cauchemars. La nuit, je ne rêve plus que de Guernica. Ce tableau me fait vivre une expérience de l'angoisse inoubliable que je n'avais jamais éprouvée dans la vraie vie.
C'est parce que son message va bien au-delà de Guernica et même de la guerre. Il nous dit « Tout ce que nous aimons mourra un jour ».
Non, Dora. Il nous dit « Tout ce que nous aimons est déjà mort
oh. ».
C'est bien ce que je pensais en la voyant.
Il y a longtemps que l'art a cessé d'être monumental. Pour être monumental comme Michel-Ange ou Rubens, il faudrait que notre époque ait foi en l'humanité. À l'heure actuelle, le seul monument possible est un monument négatif. Guernica est un monument au désespoir et à la destruction.
Moi, je ne peux pas être aussi pessimiste que toi. J'ai besoin de penser que l'humanité apprend de ses erreurs et qu'un jour, la folie des hommes ne sera plus qu'un lointain souvenir.
Et que vois-tu dans la conjoncture actuelle qui te fasse penser cela?
Ce que je vois, c'est que malgré Guernica, l'espoir brûle dans le cœur de ceux qui se battent pour la liberté. Je vois que la mort de Garcia Lorca a donné à des milliers de jeunes gens l'impulsion de se lever et de prendre sa suite.
En parlant de suite, je ferais mieux de regagner la mienne à l'hôtel Beaujolais. J'adore méditer sur la tragédie depuis mon lit. Messieurs, mademoiselle...
Monsieur,
Paul, j'aimerais que tu y ailles aussi. Il faut que j'avance. Jusqu'à demain, je n'y suis pour personne. Sauf Dor.
Très bien.
Allez.
Au revoir.
Picasso poursuit son travail acharné. Mais Dor Amar découvre qu'avec Picasso, elle n'est jamais au bout de ses peines. Progressivement, elle voit apparaître sur le tableau une femme qui a les traits de Marie-Thérèse Walter, qu'elle croyait avoir supplantée dans la vie de l'artiste. Le 10 juin, Dor Amar est à l'atelier lorsqu'une visiteuse arrive sans prévenir.
Il est bientôt midi. Je vais aller nous chercher quelque chose à manger.
Oh ! Pablo ? Je suis là.
Ma petite fille. Et qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais pourtant dit de ne pas venir quand je travaille.
Je sais, mais ça fait 15 jours que t'es pas venue. Je m'inquiétais.
Non, il ne faut pas. Quand je ne viens pas, c'est que je suis occupée. Comment va Maya?
Elle refuse de manger. Elle dit qu'elle ne mangera que si c'est son papa qui lui donne.
Mais ça ne va pas du tout, ça. Il faut qu'elle mange. Dis-lui que je viendrai bientôt. Regarde ce que je suis en train de faire. C'est presque fini.
C'est grand.
Oui. C'est très grand. Ça va s'appeler Guernica. Je l'ai peinte pour toi.
C'est vrai?
Bien sûr.
Qu'est-ce que c'est que cette comédie? Chassez cette femme!
Madame, j'ai un enfant avec cet homme. Ma place est ici avec lui, c'est à vous de partir.
J'ai autant de raisons que vous d'être ici. J'ai pas d'enfant avec lui, mais je ne vois pas quelle différence ça fait.
Ça fait que nous sommes une famille. Vous n'êtes personne, vous n'êtes rien, vous ne comptez pas pour lui.
Il ne vous aime pas, il me l'a dit.
C'est moi qui l'aime, depuis 10 ans.
Mais Pablo, tu as vraiment dit ça?
Bon, moi, j'ai du travail. Débrouillez-vous entre vous.
Pablo, décide-toi. Laquelle de nous deux doit s'en aller?
C'est difficile, ce que tu me demandes. Je vous aime toutes les deux, pour des raisons différentes. Je t'aime parce que tu es douce et tendre, et j'aime Dora parce qu'elle est intelligente. D'ailleurs, vous êtes toutes les deux dans le tableau, alors je n'ai pas envie de prendre une décision. Réglez ça toutes les deux.
Allez-vous-en! Ah! Comment osez-vous me toucher?
Par contre, sortez! Faites ça où vous voulez, mais pas ici! Allez, deux! Pablo?
Je viens de croiser Dora dans la rue. Elle était à garde, ses habits étaient déchirés. Elle m'a dit qu'elle venait de se battre à coups de poing avec Marie-Thérèse Walter.
C'est exact. C'est mon meilleur moment depuis que j'ai commencé cette peinture.
Et ça te pose pas de problème? De pousser deux malheureuses femmes à se battre alors que tu travailles sur une toile qui condamne les horreurs de la violence?
Que tu es simpliste. Tu devrais savoir à ton âge qu'il n'y a pas d'érotisme sans violence.
Quand j'ai connu Dora, c'était une femme rayonnante. Audacieuse, forte. Regarde ce qu'elle est devenue, une loque. À force que tu t'essuies les pieds sur elle à longueur de journée.
Tu as raison. Les femmes, pour moi, se divisent en déesses et en paillassons. Dora, quand je l'ai connue, était une déesse. Elle a décidé d'elle-même de rejoindre le camp des paillassons. Sans doute qu'elle y trouvait son compte.
Tu me dégoûtes. Je veux plus rien avoir à faire avec toi.
Quel cinéma. Personne ne quitte Picasso. Personne.
À la mi-juin 1937, Guernica est exposée au pavillon espagnol de l'Exposition universelle et connaît un retentissement dans le monde entier. En août, Éluard écrit le poème « La victoire de Guernica », une violente diatribe contre la guerre. Ces deux œuvres, auxquelles s'ajoutent les photographies de Dor Amar, forment à jamais un triptyque monumental contre la barbarie. Mais lors de l'exposition, aucune mention n'est faite du travail de Dor Amar. Celle-ci, minée par sa relation avec Picasso, sombre dans la dépression. À partir de 1937, Picasso la représente sous les traits de la femme qui pleure, exprimant la douleur qui ne la quitte plus. Leur liaison se termine en 1944. Date à laquelle Françoise Gillot la remplace dans la vie de l'artiste. la rupture marque pour Dora Maar le début de sa descente aux enfers. Elle est internée en hôpital psychiatrique où elle subit des électrochocs. Picasso et Éluard la confient à Jacques Lacan, avec qui elle entamera une psychanalyse. Mais elle ne retrouvera jamais sa vitalité d'avant et vivra recluse pendant 40 ans. En 1944, elle écrit la lettre suivante à Jacqueline, l'épouse d'André Breton.
Ma chère Jacqueline, Picasso s'est trompé. Je ne suis pas une femme qui pleure. Je suis une femme qui hurle sans bruit. Je suis pleine d'une douleur qui me transforme en statue, comme si je vivais dans un tableau. Je lui ai dit que j'étais à bout de force et que j'allais sans doute finir dans un asile. Il faut croire que ça n'a pas suffi à le retenir. Autant les derniers portraits qu'il a faits de moi sont sombres, autant ceux qu'il a faits de Françoise Gillot sont lumineux, comme les miens au début. Je n'ai pas besoin de mettre cette jeune fille en garde. Le spectacle de ma déchéance est, je pense, un avertissement suffisant. Peut-être aura-t-elle la force que je n'ai pas eue, celle de résister au Minotaure. Quant à moi, j'ai tout brûlé derrière moi, sans espoir de retour. Sur mon secrétaire, j'ai un dessin qu'il a fait de moi, juste après notre rencontre. J'ai des grands yeux clairs qui regardent dans le vide, et des ailes d'oiseau. C'est ainsi qu'il me voyait alors. Un aigle qui planait au-dessus de tous. Aujourd'hui que je suis à terre, je voudrais que toi et nos amis gardiez toujours le souvenir de cette Dora-là, la femme oiseau. Merveilleusement libre.
Dora Maar, Picasso et la naissance de Guernica, de Marjorie Philibert, avec Dora Maar, Shadi Nafar, Picasso, Grégoire Mont-Saint-Jean, Paul Éluard, Denis Herrier, Jean Cocteau, Jean-Noël Lefebvre, Marie-Thérèse Walter, Charlène Neuzan, Nouche, Éluard, Jeanne Ignatieff, Bruitage, Elodie Fiat, prise de son montage et mixage, Mathieu Leroux, Titouan Oex et Paola Collin, assistant à la réalisation Thomas Ignatieff, réalisation Christophe Hoquet. Vous écoutez Autant n'importe l'histoire sur France Inter. Dans quelques minutes, la suite de mon entretien avec Damaris Samao à propos de Dora Maar et de Picasso. Mais d'abord, on écoute Good to Know de Loose and the Yakuza.
La nostalgie me prend au cœur quand je me regarde à travers le miroir. Qu'est-il arrivé de si noir? J'ai plein de larmes coincées dans mes mouchoirs. Qu'est-il arrivé de si noir? Une douche de stress dans ma tête, ça m'affecte. Comme un tourbillon, un tsunami, une tempête. La peine me transperce jusqu'à mon squelette. Oh Lord, I've never seen that before.
France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire.
Damaris Amao, nous avons donc quitté Dora Maar des années après sa séparation d'avec Pablo Picasso en 1944. Nous avons assisté à quelques scènes assez terrifiantes, des dialogues où Picasso, bon, c'est des dialogues inventés évidemment, hein, il y a des choses sûrement qui sont vraies, mais des dialogues où Picasso a vraiment tout d'un monstre de cynisme, de méchanceté. Par exemple, cette scène où il laisse ses deux maîtresses, Marie-Thérèse et Dora, se battre sous ses yeux sans dire un mot. Est-ce que c'est véridique ?
Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mythes, beaucoup de témoignages secondaires autour de la relation entre Dora Maar et Picasso. C'est vrai qu'on le ressent, et puis on le voit dans les autres relations que Picasso a pu avoir, qu'il y a une grande tension entre les deux, et en même temps une tension qui les lie et qui est liée aussi avec leur connivence intellectuelle et artistique. Quelque chose qui est différent, peut-être la relation est différente de celle qu'il a pu avoir avec d'autres compagnes.
Mais il y a quand même, je ne veux pas forcément prendre la défense de Dora Maar contre Picasso, mais il semblerait qu'il exerçait quand même des violences physiques et psychologiques sur beaucoup de ses femmes. Dora Maar peut-être aussi.
Alors, violence, on ne sait pas, du moins physique, psychologique, peut-être, en effet. Peut-être que si on revient par rapport à sa propre pratique de la photographie, on sent que ça a beaucoup, le regard de Picasso a beaucoup pesé pour lui faire peut-être abandonner la photographie. Peut-être qu'il trouvait qu'elle était un peu trop bonne dans ce domaine et qu'elle était une concurrente. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand Dora Maar commence ses études en art appliqué, à la base, elle veut devenir peintre. Elle suit l'enseignement du peintre André Lhote, qui a une académie privée. Hein. C'est à l'époque où Henri Cartier-Bresson est aussi en 27-26.
Grand photographe.
Voilà, il fréquente aussi l'école. Donc, il y a toujours eu cette volonté chez Dora Maar de devenir peintre. Et donc, la rencontre avec Picasso, c'est aussi une opportunité pour elle de se dédier finalement à ce rêve premier.
Alors, quel rôle Picasso a pu jouer donc, dans l'art de Dora Maar? Bon, vous le dites peut-être justement, cette initiation, ce retour à la peinture. Et inversement, quel rôle Dora Maar a pu jouer pour Picasso? On a vu comment, pendant la gestation du tableau Guernica, on a l'impression que Dora Maar a joué un grand rôle dans peut-être les idées qu'elle a apportées. Et puis, cette série de reportages photos qu'elle réalise pendant que Picasso peint Guernica au fur et à mesure des semaines.
Oui, alors je pense que, en effet, quand ils se rencontrent, il faut pas oublier que Picasso est un moment un petit peu compliqué de sa carrière et qu'il a besoin finalement un peu de se ressourcer, et que la rencontre avec Dora Maar et la rencontre avec la photographie est très importante dans ce ressourcement pictural pour Picasso. Par exemple, il va commencer à s'initier à des pratiques hybrides entre photographie et gravure avec le cliché vert. C'est elle qui va lui montrer comment on travaille dans la chambre noire avec la plaque de verre. Il va commencer à faire ses dessins. Donc, il y a une rencontre entre la peinture et la photographie, et qui est due vraiment à cette rencontre avec Dora Maar.
Et politiquement aussi, on a l'impression que c'est quand même elle qui a une expérience peut-être aussi de militante politique, antifasciste, antistalinienne. Enfin, elle est assez au fait des choses, et elle a l'air d'inciter Picasso à peindre pour défendre la République espagnole.
En effet, au milieu des années 30, Dora Maar, qui est proche des surréalistes, qui va rejoindre le groupe contre-attaque de Georges Bataille, elle signe plusieurs manifestes, elle est celle qui est la plus engagée, qui est la plus qui milite le plus. Et donc, quand elle lui trouve aussi cet atelier pour faire Guernica, c'est grâce à son réseau aussi de jeunes gens engagés qu'elle fréquente. Et donc, c'est vrai qu'à cette époque, voilà, elle est vraiment une instigatrice, elle incite Picasso à s'affirmer un peu plus politiquement. Et Guernica, il faut le rappeler, qui est en noir et blanc et en gris, c'est une œuvre profondément photographique.
Mais oui, c'est vrai.
C'est une œuvre qui est faite pour le journal.
Comme à l'époque, la photographie est forcément en noir et blanc, il s'est inspiré de ces photos faites par Dora Maar, mais oui. Il n'a pas vraiment reconnu sa dette envers elle.
Non, mais on a retrouvé des archives, des photographies où on voit qu'elle peignait elle-même hein, dans l'atelier. On pense qu'elle a peint des parties de Guernica et qu'elle faisait aussi, qu'elle peignait elle-même aussi de son côté, au même moment.
Et que penser de la série de tableaux intitulée « La femme qui pleure »
Cette femme qui pleure. Qui
elle a beaucoup été associée à Dora Maar, et peut-être un peu trop d'ailleurs.
Oui, elle a même été pendant longtemps, elle a même fait. On l'a trouvée sur les timbres, hein, pour dire que c'est un véritable symbole, une icône un peu de Picasso. C'est Dora Maar et pas Dora Maar. Elle est inspirée certainement par des séances de pose. Je crois, si je me rappelle bien, que Dora Maar s'est toujours voulu toujours rappeler la distance qu'il y avait avec ce portrait. Qui malheureusement lui a collé beaucoup à la peau, a peut-être aussi a été emblématique de leur relation. Que dire ?
Bon, disons, quelle a été sa vie après, alors, Damaris Amao, parce que elle a quand même, donc, elle s'est lancée dans la peinture et elle a eu, elle a eu cette période difficile de dépression, de séjour en hôpital psychiatrique, mais après la guerre, elle a quand même, elle s'est remise à peindre, véritablement, et ça, c'est quelque chose qu'on a découvert relativement récemment.
Oui, c'est vrai qu'au moment de son décès, au moment des ventes aux enchères, tout son atelier a été dispersé.
Oui, elle est morte en 1997, donc, assez tard. Tardivement, elle était très âgée.
Ouais. Donc tout son atelier a été dispersé très rapidement, donc on n'a pas pu se rendre compte de l'ampleur de son travail. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il y a une production qui est continue des années 40 jusqu'aux années 80, mais qu'elle a peu montré ce travail. Elle va même refaire de la photographie dans les années 80. Elle fait des photographies qui sont très inspirées aussi de la gestualité, de l'abstraction.
Ouais. Mais est-ce que cette peinture a une valeur enfin, artistique ?
Oui, les expositions récentes et la redécouverte du travail de Dora Maar, qui a été fait à l'occasion de l'exposition en 2019 et celles qui se sont poursuivies, montrent qu'il y a différents aspects dans le travail pictural de Dora Maar. Il y a cette partie qui est un peu une sorte de pastiche de Picasso, qui montre plutôt qu'elle fait ses gammes d'une certaine manière en regardant le maître. Et puis, il y a une œuvre beaucoup plus indépendante, notamment ses abstractions, qui est à mettre en écho avec le développement de l'abstraction. Elle est proche de Nicolas de Staël à cette époque-là. Ils sont autour de Ménerme, là où elle voit avoir sa maison, et qui montre qu'elle s'inscrit dans un courant pictural de l'après-guerre, dans lequel elle a toute sa place.
Donc, une artiste à part entière, ou bien au-delà de la muse et de la femme qui pleure. Merci Damaris Amao. Donc sur Dora Maar, je conseille la lecture du catalogue, très beau catalogue de l'exposition de 2019, donc au Centre Pompidou, consacré à Dora Maar, dont vous avez été la une des commissaires avec Karolina Zebienska, Lewandowska et Amanda Maddox. Et je conseille également la biographie Dora Maar, prisonnière du regard, d'Alicia Dujovenet-Ortiz, disponible en livre de poche. C'est la fin de cette émission qui a été réalisée par Anne Weinfeld, assistée de Frédéric Martin et Emma Bouvier, à la technique Pauline Laverdure. Cette émission est aussi la dernière d'Autant n'importe l'histoire qui ne sera plus présente à la rentrée sur la grille de France Inter. Depuis 2015, donc depuis 10 ans, j'ai eu l'immense chance, le bonheur, le plaisir de fabriquer Autant n'importe l'histoire qui reprenait le flambeau d'une longue tradition radiophonique sur France Inter, associant histoire et fiction en tentant de l'inscrire toujours dans la modernité. Ce fut un travail collectif passionnant, mené avec des professionnels formidables, tous les auteurs des fictions qui ont accepté de se soumettre à mon terrible cahier des charges. Christine Spianti, Jean-Yves Le Naour, Corinne Clombe, Marjorie Philibert, Patrick Pêcherot, Camille Azaïs, Didier Blonde et j'en passe. Les réalisateurs de fiction, parmi eux, les talentueux Baptiste Guitton, Cédric Ossier, Christophe Hoquet, Sophie Haute-Picon, les comédiens et les comédiennes qui ont prêté leur voix pour incarner et rendre moderne, proche, sensible, tant de personnages de l'histoire. Je n'oublie pas les bruiteurs, les techniciens et bien sûr tous les historiens sans lesquels cette émission serait impossible et avec qui j'ai beaucoup appris. Merci aussi aux talentueux Antoine Dabrowski, Michel Billou, Juliette Gou, Audrey Ripouille, Anne Weinfeld qui ont réalisé l'émission, ainsi qu'Emmanuel Fournier et l'indispensable qui sait tout, Frédéric Martin. Voilà, j'en ai fini pour la minute, larme à l'œil. Pour ma part, je vous retrouverai avec plaisir à la rentrée sur France Inter dans un nouveau rendez-vous. En attendant, vous pouvez comme toujours vous abonner au podcast d'Autant n'importe l'histoire sur l'appli Radio France. Vos commentaires sont les bienvenus sur la page de l'émission ainsi que sur Facebook. Le week-end prochain, ce sera le début de la grille d'été sur France Inter. J'y serai présente avec mon émission Espion, une histoire vraie, diffusée tous les samedis à 13h15. Je vous souhaite à tous un très bel été.